Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
De Chavannes cherche copains, mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, hommes ou femmes politiques, même présidents, hein, vous voyez, en toute simplicité des présidents. Oui, mesdames, messieurs. Et puis des TikTokers. Des TikTokers. Je kiffe, en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Ouais. De Chavannes cherche copains. Des copains. De Chavannes cherche copains.
Christophe de Chavannes et Raphaël Glucksmann ont été très bavards. Voici donc l'épisode 1. À la fin, n'hésitez pas à cliquer pour écouter le podcast numéro 2.
Salut.
Oh, mais dis donc, vous avez grandi.
Bah écoute, on pousse.
Ça va bien.
Salut.
Je suis content de vous voir. Bienvenue à la maison, donc, hein, parce que là, on est chez moi.
Grand plaisir.
Et bienvenue donc à De Chavannes cherche copain.
Ouais, bah ouais. Écoute, je vais essayer de.
Je vous débarrasse.
C'est un peu une date.
Bah, et c'est exactement ça. Est-ce que je vous offre un truc à boire?
Je veux bien. Un verre de vin?
Du jus de raisin, oui, c'est ça.
Ouais, pardon.
Du jus de raisin. Et justement, alors, Raphaël Glucksmann, je suis très content de vous accueillir à la maison. Faites gaffe, vous avez un truc qui pend entre les jambes. Si vous voulez bien, on va commencer par le début. Peut-être le tout début. Avant le présent et l'avenir, on va revenir un peu en arrière. Un jour, il y a Claude Brasseur qui a dit ça au César en disant « J'ai mis 40 ans à me faire un prénom ». Donc vous avez mis un peu moins, mais on disait le fils d'André Glucksmann. Longtemps.
Bien sûr, mais ça reste vrai.
C'était chiant ?
Non, pas. Enfin, moi, ça m'a jamais pesé, mais parce que mon père était quelqu'un qui n'était pas une figure du commandeur, quoi. Donc, j'ai pas eu de...
Pour vous ?
Ouais.
C'était quoi ?
Moi, c'était mon premier, mon meilleur ami, je pense.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, oh, formidable.
On disait Homère, pour le moment, on avait des grandes discussions sur les Grecs et les Troyens. C'était mon compagnon de jeu. Ma mère, elle...
Oui, parce qu'on dit fils d'eux, mais il y a aussi fils d'eux. Elle était réalisatrice, quand même.
Elle était script... Et de Bresson.
Ouais.
Et elle partait souvent pour faire du tournage. Donc en fait, j'étais très proche, moi, de mon père, enfant. Quand on lui a proposé un appart au moment où la gauche avait gagné les élections, il a décidé de partir vivre dans un tout petit village en Bourgogne.
Pourquoi ?
En fait, il supportait pas l'arrogance de la victoire. Et du coup.
Il y avait de l'arrogance dans cette victoire.
La mentalité, c'était la droite s'est servie pendant 30 ans, donc maintenant c'est à nous de nous servir. Et donc lui, il est parti vivre dans un village savoisi. En Bourgogne, et c'est là où j'ai passé mes premières années, donc on était hyper en symbiose, et ensuite c'est resté comme ça un grand ami, quoi, quelqu'un qui m'a énormément appris, mais qui a jamais rien imposé comme figure du père, mon fils, il faut que tu fasses ça, regarde ton père.
Pas de challenge.
Non, et du coup j'ai eu un rapport assez sain au fait que les gens connaissent mon père.
Donc toi t'as été bercé à la lecture d'Homère quand même.
Ouais.
Ça laisse des traces.
Ouais, j'étais pour les Troyens, évidemment, puisqu'ils étaient attaqués par les Grecs.
Ouais.
On avait des grands débats, parce qu'en fait, pour lui, la Grèce, c'est tout. C'est-à-dire que dans le fameux débat entre notre civilisation européenne, est-elle la fille de Jérusalem ou d'Athènes,
la
religion juive et chrétienne, ou de la philosophie grecque et de la démocratie athénienne.
Il
était juif, il avait un rapport particulier à l'histoire de la Shoah, évidemment, puisque sa famille en avait été victime et que lui-même, quand il était tout petit...
De toute façon,
avait été mis dans un train, et c'est sa mère qui l'avait sorti. C'est la grande leçon de sa vie, c'est qu'en fait, ils se sont fait arrêter par la police française, ils ont été parqués dans un train, son père avait déjà été tué, il restait sa mère et ses deux sœurs à lui, Et ils se sont fait arrêter, mettre dans un train, et elle a fait un tel esclandre, parce que comme elle faisait partie des réseaux de résistance, elle savait ce qui se passait. Elle a fait un tel esclandre en expliquant aux gens qu'ils allaient se faire tuer. Donc ça a commencé à se révolter, et les policiers français l'ont sorti du train avec ses enfants. Ils ont dit, allez, barre-toi.
Arrête de nous foutre la merde.
Ouais, arrête de foutre la merde. Et donc c'est la leçon qu'ils ont attirée, c'est qu'il faut toujours gueuler.
Donc les chats ne font pas des chiens.
Voilà, c'est pour ça que je suis là à vous parler.
Voilà.
Si vous voulez, un autre truc assez drôle sur sa jeunesse, c'est que donc il y avait
on parle d'André Glucksmann.
Ouais, il y avait des psys qui étaient chargés, notamment par la famille Rothschild, je crois, qui finançaient ces programmes, qui étaient chargés.
On dit bonjour à tous les gens de la fachosphère qui nous écoutent.
Ouais. Et qui étaient chargés de voir avec les enfants qui avaient survécu s'ils étaient traumatisés ou pas. On lui demande donc voilà, il va falloir que tu parles à cette personne, que tu racontes ta guerre. Lui, il raconte ce qu'il a vécu, quoi. La messe, des trucs comme ça. Et les psys disent, bon, s'il y en a un qui n'a rien compris à ce qui s'était passé, c'est lui, quoi. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'ensuite, toute sa vie, il va aller travailler sur les guerres, les génocides, les massacres de masse. Et finalement, cette enfance qu'il n'a pas compris, apparemment, restera le fil rouge de son existence.
Et on se tutoie, donc, hein. J'ai l'impression que ton chemin est un peu le même, c'est-à-dire l'ouvrir sur le massacre.
Mais moi, en fait, j'ai eu une chance fascinante et unique. C'est que mon appartement, enfin l'appartement de mes parents dans le 10e arrondissement de Paris, était une sorte d'ambassade des causes perdues. C'est-à-dire que je dormais à la maison, et d'ailleurs je devais laisser à chaque fois ma chambre, des féministes algériennes mêlées à des dissidents d'Europe de l'Est, mêlées à des opposants d'Amérique latine. Et tous ces gens-là, parfois ensemble, et d'ailleurs parfois ensemble, c'était assez drôle parce qu'il y avait des opposants d'Amérique latine qui donc étaient très de gauche.
Donc ça, de quelle époque, Pinochet ?
Ouais, voilà, années 80, et ils s'entendaient hyper bien. Parce qu'en fait, ils avaient en commun une révolte.
Ils se retrouvaient un petit peu dans quelque chose, voilà.
Voilà, mais de la révolte, du sentiment de liberté, de la volonté d'émancipation. Et finalement, ils étaient beaucoup plus proches les uns des autres que de leur équivalent politique en France, quoi. Et donc, moi, j'ai eu cette chance incroyable d'avoir cette formation-là.
Bah, qui t'a complètement imprimé, en fait.
Voilà. Alors, le seul truc, c'est que j'arrivais pas trop à sécher l'école parce que j'avais des récits sur combien de kilomètres les gens devaient faire à pied. Dans leur enfance pour aller à l'école, combien les écoles avaient été détruites et tout ça, et quelle chance j'avais d'aller à l'école. Donc je me sentais mal.
T'arrivais pas à sécher.
Donc on n'avait pas besoin de m'obliger à aller à l'école, quoi.
Oui, tu te sentais coupable si jamais tu séchais un cours.
Crétin, t'as trop de chance.
Ouais, mais donc en fait, quand on dit fils d'eux, il y a un côté bof et puis il y a un côté formidable. Par exemple, dans le cinéma, il y a les fils d'eux qui deviennent acteurs. En Formule 1, t'as les fils d'eux qui deviennent pilotes.
Après, moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est que j'étais hyper content, j'ai jamais eu de problème avec ça, et en même temps, je me suis quand même barré de France à 20 ans. Pour aller d'abord en Algérie, ensuite au Rwanda.
Mais donc ça, c'est une espèce de rébellitude, quand même.
Non, parce qu'en fait, je l'ai fait hyper naturellement.
Oui, mais
plutôt j'étais en Algérie, Rwanda, ensuite je suis parti en Europe de l'Est, et en fait, je suis revenu réellement en France, réellement, très tard, en 2013.
T'es parti combien de temps alors ?
Bah, je faisais des allers-retours, tu vois.
Mais en gros.
En gros, ma vie, elle s'est vraiment construite pendant 10 ans, quoi.
Ah ouais.
Mais sans jamais me dire, ah, faut que je parte, j'aime pas ça. J'ai été flippé par l'ennui que me promettaient mes compagnons de classe de Sciences Po. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé à Sciences Po. Et je voyais des gens, j'avais l'impression qu'ils étaient revenus tout avant d'avoir vécu quelque chose. Et donc je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, ça peut pas être ça la vie. Donc je suis parti. C'est-à-dire que j'ai repoussé ma scolarité.
Ah, donc t'as pas fini Sciences Po ?
Si, j'ai fini à la fin, mais j'ai repoussé ma scolarité plusieurs fois. Et je suis revenu juste pour passer le grand oral final, là, le concours final. Je l'ai sans surinvestir émotionnellement le fait de l'avoir.
Et est-ce que surtout ça a changé quelque chose dans ta vraie vie ? En vrai, t'étais très libre et en même temps, sans cette influence et maternelle et paternelle, tu serais devenu le Raphaël Glucksmann d'aujourd'hui ? Probablement pas. Mm-hmm. Ces structures psychologiques, philosophiques, etc., c'est tes parents.
C'est ouais, bien sûr.
C'est pas toi tout seul.
Non, mais ça, c'est pour ça que je dis...
Mais c'est pas une critique, hein ?
Non, mais c'est absolument pas une critique, et c'est pour ça que je suis hyper à l'aise avec ça, et que je sais, moi, la chance que j'ai eue, vraiment, d'avoir... des parents qui étaient aussi mes amis. Et ça, c'était une chance incroyable. Et ensuite...
Et qui étaient des pointures.
Et qui étaient des pointures. Mais et aussi une autre chose qui m'a beaucoup marqué chez mon père, c'est que je pense que c'était le seul intello parisien qui passait des dîners entiers à écouter les gens.
À la maison, tu veux dire.
Ouais. Et il écoutait. Quand il organisait des trucs pour que leurs paroles se diffusent avec d'autres intellos parisiens ou des journalistes et qu'il y en avait qui faisaient un peu le show et qui parlaient trop des parisiens, il leur disait « mais taisez-vous, enfin, c'est pas vous qu'on veut entendre ». Et je pense que cette attitude-là m'a énormément appris aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter et être l'écho ensuite.
Moi, j'ai commencé à entendre parler de toi véritablement, sérieusement, sur les Ouïghours, par exemple, où tu étais le seul, tu es peut-être encore même, j'espère pas trop.
Non, mais, il y en a d'autres.
Maintenant. Ouais, j'espère. Tu es député européen. Alors, c'est un parti, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est quoi Place Publique ?
C'est un parti.
Donc toi,
public.
Tu es élu de Place Publique.
Ouais.
D'accord.
Et
qu'est-ce qu'il faut pour être un parti politique ?
Non,
moi, demain, je veux faire un parti.
Tu peux, tout à fait.
Il faut être majeur.
Il faut être majeur. Je crois qu'il faut être au moins trois pour avoir un secrétaire général, un trésorier, un président. Sinon, après, tu dois créer ton statut. C'est un statut de parti politique, mais ça te permet, en fait, d'aller aux élections. Si tu es une association simple, tu ne peux pas participer aux élections.
Et combien vous êtes, alors, de place publique au Parlement européen ?
Deux. Bah après, tu sais, il n'y a pas énormément de députés français au Parlement européen.
Non, je sais bien.
On est deux. Il y a donc Aurore Laluc, qui est une économiste, et moi.
Et pourquoi, toi, tu as basculé de philosophe à politique, tout en restant, évidemment,
Tu es. Qui je suis, mais parce que j'avais très peur de devenir un Finkielkraut de gauche. C'est-à-dire de répéter trop de fois la même chose et à la fin d'être en boucle. Et j'avais très peur de ça. C'est-à-dire que je me voyais comme ça... répéter que les choses n'allaient pas dans mon sens, que ça manquait de politique courageux, que ça manquait de vision, que ça manquait d'énergie.
Et que t'allais finir par dire des bêtises, donc si tu compares.
Mais je pense pas que j'aurais fait ça comme trajectoire idéologique, mais par contre.
Est-ce que tu penses qu'il a basculé dans quelque chose qui n'était pas prévu, même par lui ?
Je pense que bien sûr, il s'était pas prévu par lui la position qu'il a actuellement. Après, il t'expliquera que
C'est la société.
Un chemin vers la sagesse. Ouais. Je pense que c'est pas ça, mais bon, c'est. Mais
tu peux parler avec Finkielkraut, par exemple ?
À mon avis, c'est très compliqué, mais j'ai pas d'expérience de ça. Donc je peux pas te répondre.
Okay.
Mais j'avais pas peur de cette trajectoire idéologique, mais j'avais peur de me répéter et d'être un peu aigri de gauche, mais aigri. Et donc, au bout d'un moment, si tu penses que ça ne marche pas exactement comme ce que tu voudrais voir, faut essayer toi-même de le faire.
Mais c'est pas...
Et en fait, l'anecdote, c'est que je vais faire une conférence à Metz. Je fais un grand discours, machin. J'avais sorti un livre qui avait très bien marché, qui s'appelle « Les enfants du vide ». Et il y avait plein de monde dans les salles à chaque fois. Et je commence à développer mon discours. Je sens que la salle adhère, je me sens bien, tout va bien, et à la fin on fait les signatures, et les gens ils viennent, et ils sont très sympas, très gentils, et d'un coup t'as une grand-mère qui arrive et qui m'engueule, mais grave, qui me dit, mais en fait, vous valez rien, quoi. Pardon.
Vous ne valez rien.
Ouais, je fais pardon. Je dis, non, mais vous y croyez pas à vos mots, parce que je dis, si, j'y crois. Enfin, elle me dit, non, parce que si vous y croyez, en fait, vous devriez vous engager en politique, ça sert à rien, là, ce que vous faites.
Savez, c'est elle qui t'a mis le coup de batte de baseball.
Ouais, grave. Et elle me dit, vous savez, moi, je suis né avec une carte de membre de la SFIO dans mon berceau, quoi, parce que mon père était socialiste et tout ça. Donc pour moi, la politique, c'est pas de la rigolade.
On peut rappeler la SFIO.
Section française de l'Internationale ouvrière, voilà. C'était l'ancêtre du PS en gros.
Voilà.
Et pour moi, c'est pas une blague. Donc on voit tous dans quelle merde est la gauche française. Si vous croyez à ce que vous dites, eh ben, vous prenez votre bâton et vous prenez votre blouse et vous allez au feu.
Donc c'est cette femme.
Et elle m'engueule, mais vraiment, à la fin, c'était la grand-mère qui t'engueule, quoi. Et je me souviens, je prends le train pour entrer et j'étais, mais...
T'arrêtais pas de déranger à ça.
J'étais là, putain.
Bah oui, elle avait touché là où ça faisait mal. Donc elle le sait, cette dame ?
Non.
Si elle nous écoute, peut-être que... C'était dans quelle ville ?
À Metz.
À Metz. Juste une question, qu'est-ce que vous foutiez au grand meeting de Sarkozy avec ton père?
Avec mon père, parce que mon père...
Quand je dis qu'est-ce que vous foutiez, ça n'a rien à voir avec Sarkozy, ça a à voir avec vous.
Non, bien sûr. Alors en fait, on avait un projet qu'on a fait après en livre, qui était d'expliquer mai 68 à Nicolas Sarkozy.
D'accord, donc c'était un déplacement professionnel.
Non, c'était pas un déplacement professionnel, parce que mon père, il avait soutenu Sarkozy.
Ben oui. Ouais. Ça a été beaucoup reproché.
Bien sûr. Et parce qu'il avait cru que quand Sarkozy avait fait ses discours sur Anna Politkovskaya, la Russie... Mon père, si vous voulez, les 15 dernières années de sa vie, il les a consacrées à une cause, qui était les Tchétchènes. Un peuple massacré, une capitale Grozny anéantie, 100 000 morts sur... plus de 100 000
donc
morts
avec
sur
un million... Avec le même dirigeant russe.
Avec le même dirigeant russe, Vladimir Poutine, la même armée.
Et qui essaie de faire donc la même chose, en fait.
Exactement. Et donc, ça, c'était l'immense combat de mon père. Et les politiques français en avaient strictement rien à foutre. Et tout d'un coup, t'as un mec qui arrive, Sarkozy, qui, quand il est ministre de l'Intérieur, régularise les Tchétchènes, qui va voir mon père, qui lui dit moi aussi, c'est le combat de ma vie, on va le faire ensemble, machin, etc. Mais... La grande leçon pour moi, c'est que mon père ne pouvait pas imaginer que le mec, en fait, les mots qu'il prononçait n'avaient pas du tout le même sens que pour lui. C'est bizarre hein, de penser ça. Mais il ne pouvait pas penser que l'autre voulait juste le séduire, en fait.
Pour quelle raison ?
Bah parce que c'était une prise de guerre extraordinaire. Hein. L'intellectuel humaniste de gauche qui tout d'un coup dit « Mais non, Sarkozy, c'est bien.
Donc il est fort, Sarkozy ?»
Bah, hyper fort, mais moi, c'est d'où ma méfiance mais radicale vis-à-vis ce type de leader politique.
Et que même ce type de leader politique, ça veut dire quoi ?
De leader ultra volubile, très bon pour te faire croire qu'il pense exactement ce que tu penses.
Est-ce que c'est pas l'essence même d'un politique ?
Ah, je crois pas du tout. Je pense que c'est l'essence même d'un certain type de politique dans une société largement dégénérée qui croit plus dans ses combats, c'est-à-dire que et dans ses principes. Bien sûr, le politique veut convaincre, mais enfin franchement, je pense pas que De Gaulle ou Churchill chercheraient.
Tu parles d'un autre siècle.
Ouais, voilà, peut-être. C'est peut-être le propre de notre époque. Dans ce cas, c'est assez triste sur notre époque.
C'est.
Mais il peut pas imaginer en fait que l'autre. Tu vois, mon père, il a pu se planter sur plein de trucs. Mais il croyait à l'exigence de la vie dans la vérité. Et alors, ça ne veut pas dire que tu ne te plantes pas, ça ne veut pas dire que tu ne te trompes pas. Mais ça veut dire que tu attaches une forme d'importance à tes mots et à tes actes. Mais donc, ça veut dire que se retrouver face à quelqu'un qui va sortir le discours parfait... Mais moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ont cru exactement de la même manière à Macron. Mais parce que Macron, il est hyper bon sur une rencontre un à un. Tu vas le voir, tu sors en disant « Mais Macron pense comme De Chavannes ». Je sais pas, Danny Cohn-Bendit va le voir et il sort en disant mais Macron c'est l'enfant de Cohn-Bendit, il pense exactement comme moi. Mais Védrine va voir Macron et sort en pensant mais Macron pense exactement comme moi. Or les deux pensent
peut-être pas Mélenchon,
mais les deux pensent des choses antithétiques si tu veux, mais tous les deux vont sortir du bureau en pensant que Macron pense comme eux. Ils sont hyper forts pour ça. Je crois qu'il y a un refus du tragique chez ces gens. C'est-à-dire que le tragique, c'est ce qui t'oblige à choisir. Tu tranches. Tu peux pas à la fois dire « il faut pas humilier la Russie » et dire « je veux que l'Ukraine gagne ». Tu peux pas à la fois dire « surtout, il faut offrir des garanties de sécurité à Moscou » et dire « c'est le retour de la guerre en Europe et le régime russe a fait voler en éclats l'architecture de sécurité européenne ». Tu es obligé, face à certaines situations, de dire qu'une partie est vraie et l'autre partie est fausse. Donc c'est un choix.
Est-ce que c'est pas la problématique majeure de la diplomatie ?
Non, c'est la problématique majeure du postmodernisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'au fond, rien n'est fondamentalement grave. Parce que s'il y a des choses graves, ben, tu es obligé de choisir et de trancher. Tu es obligé d'avoir une forme de cohérence.
Quand tu es chef d'État ?
Ouais.
Tu es sûr ?
Bien sûr, bien sûr.
Qui l'a vraiment fait à 100% ? Sans être à un moment donné dans une posture politique ou diplomatique.
T'as là une des raisons de la désaffection pour les institutions démocratiques et du déclin de nos pays, parce que cette incapacité, à mon avis, à décider, fait que le politique n'a plus de pouvoir. C'est ça, c'est qu'ils ont renoncé au pouvoir. Parce qu'en fait, quand tu fais ça...
Tu veux dire que...
Tous sont contraires, mais pas seulement Macron. Moi, je suis pas dans un rapport personnel au truc. Et Macron continue l'œuvre
beaucoup de gens disent que Macron ou la Macronie, j'aime pas ce mot-là, ça a foutu un peu la politique en l'air, quoi. C'est-à-dire
oui,
que
mais moi,
même les gens qui aiment la politique ont plus envie d'y retourner.
Mais je suis... C'est...
Le monde.
Ouais, c'est nos sociétés qui évoluent vers ça. C'est-à-dire que Macron n'est que le nom d'une évolution qui est plus profonde que simplement une personne.
Et qui est planétaire.
Et qui est largement, en tout cas, qui est occidentale, quoi. C'est,
oui, mais là, tu fais le jeu de Poutine en disant ça.
Non, je fais au contraire.
Bah, il pourrait avoir cette phrase.
Le jeu, oui, mais le jeu de Poutine, c'est fait par la faiblesse de nos cités. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que des gens croient suffisamment dans les principes structurant notre République, nos pays, nos démocraties, pour pouvoir justement être ferme face à Poutine, être ferme face à Xi Jinping, être ferme face aux tyrannies, être ferme face aux mouvements ultranationalistes et autoritaires qui gagnent partout en Europe. Or, ils ne peuvent pas être fermes parce qu'en fait, fondamentalement, ils ne sont pas fermes.
C'est pas une question économique.
C'est pas qu'une question économique. C'est même, à mon avis, cette absence de fermeté qui a engendré une forme de faiblesse économique parce qu'on a accepté, en gros, le déménagement du monde. Qu'est-ce qui s'est passé, là, depuis 30 ou 40 ans ? On a délocalisé l'ensemble de nos productions vers la Chine en se disant c'est super, on peut augmenter les marges, augmenter les dividendes versés aux actionnaires, produire pour pas cher.
Donc là tu parles des entreprises.
Oui, mais le politique a laissé faire ça, ce qui était une perte de souveraineté complètement dingue pour nos pays. Et je crois que leur faiblesse face à Poutine, c'est la même faiblesse qu'ils ont face à Total, c'est la même faiblesse qu'ils ont face aux évolutions du monde ou aux multinationales, c'est-à-dire à aucun moment ils ne croient suffisamment en quelque chose pour assumer un rapport de force et une rupture avec des intérêts puissants.
Et là, on en vient à Raphaël Guzman, pardon, et ses petits bras, parce que tu fais des luttes qui sont éminemment humaines, sociales, politiques, enfin voilà. Et je me dis, quand je te lis, quand je vois tes nombreuses sorties, notamment sur Instagram, dont je rappelle que tu as quand même 800 000 personnes qui te suivent, ce qui est... Pour toi, j'imagine, un vrai plaisir, quand même.
Là, c'est surtout un extraordinaire...
reconnaissance.
...moyen d'action et une fantastique liberté, parce que, du coup...
Ça veut dire merci les réseaux sociaux, donc.
C'est, je préside la commission sur les ingérences étrangères, donc je sais pertinemment que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence ultra délétère. J'ai étudié, désossé méthodiquement de nombreuses campagnes de désinformation, donc je sais ce que peuvent produire de mal les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux peuvent être extrêmement dangereux. Par contre, ils sont aussi capables du meilleur. C'est comme l'imprimerie, hein. Tu sais, c'est Gutenberg, il invente l'imprimerie. Ça produit à la fois les pires libelles fanatiques et les guerres de religion et les lumières, l'humanisme, etc. Donc c'est des techniques. Les réseaux sociaux, ça produit à la fois le chaos complotiste et la possibilité de réinventer la politique. Mon exemple, il est simple. J'ai donc une liberté parce que je peux mener mes combats sans suivre l'agenda médiatique. Aujourd'hui, les politiques, ils font la queue dans les matinales et sur les chaînes info, et du coup, ils sont commentateurs de l'actualité. Ce qui entraîne un truc très simple, c'est la perte de tout sens de la parole politique. Si tu es commentateur de l'actualité, tu vas venir sur un plateau et on va dire « Aujourd'hui, l'actualité, c'est la crise en Argentine. Puis demain, c'est les coupures d'énergie. Puis le lendemain, c'est l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et toi, tu dois commenter sur tout. Donc c'est-à-dire que c'est comme si tu étais quelqu'un d'omniscient. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu as quelqu'un qui te prépare des notes, tu les lis, tu les répètes, tes éléments de langage, et tu fais semblant de savoir. Mais ça, tout le monde comprend que ce n'est pas possible. Et donc ce que je pense, c'est que sur les réseaux sociaux, par exemple, tu peux choisir tes combats, tu peux décider de rester pendant 2 mois sur les Ouïghours ou pendant 3 mois de ne parler que de l'Ukraine parce que tu veux aller au fond d'un sujet, et ça permet de restaurer un rapport au temps long et à la profondeur d'un engagement. Donc en fait, je crois que dans les réseaux sociaux, il y a aussi une antidote à la crise qu'on traverse. Et ça permet de générer un engagement, parce que les réseaux sociaux, si tu veux, la vertu, c'est que nous, les campagnes qu'on fait, par exemple sur les grandes marques qui bénéficient de l'esclavage des Ouïghours, on a appelé les gens à participer.
En deux mots sur les Ouïghours, ce sont donc des musulmans, en Chine particulièrement, qui sont donc déportés. 3 millions, je crois.
Qui sont parqués dans des camps. Ouais, il y a 3 millions de personnes qui ont été déportées et qui sont parqués dans des camps. C'est le régime communiste chinois qui décide de cette politique et qui la met en place, qui la met en œuvre. Et jusqu'à très récemment, ça a été fait dans le silence le plus absolu.
Et en connaissance de cause.
Et en connaissance de cause, pas des citoyens qui n'en avaient jamais entendu parler.
Je parle des politiques.
Mais des dirigeants occidentaux.
Et pourquoi ?
Parce qu'il y a trop d'intérêt avec la Chine.
Je parlais de l'économie tout à l'heure.
Oui, il y a trop d'intérêt avec la Chine. À chaque fois qu'on essaye de faire bouger quelque chose, les gens qu'on a face à nous, ce n'est pas des employés de l'ambassade de Chine, c'est les patrons de Volkswagen, d'Inditex, de BASF, de Sanofi. Mais bref, c'est les grandes entreprises qui ont fondé leur fortune sur le lien qu'elles entretenaient avec le Parti communiste chinois. Et donc, il y a trop d'intérêts en jeu.
Mais comment aujourd'hui Raphaël Glucksmann, le représentant le plus officiel et connu de Place Publique, qu'est-ce qui peut se passer? Si tu veux, je trouve que tes combats sont d'une force absolument sincère et formidable. Mmh. Et au fond de toi, quand tu te couches le soir, est-ce que tu te dis « tout ça est vain » ou est-ce que tu gardes un espoir?
Mais ce n'est pas vain, parce que regarde, au tout début, c'est dans les premières semaines de mon mandat, je reçois des déportés ouïghours. Et ils me racontent un crime d'une telle ampleur qui rencontre un silence aussi absolu. Et une chose qui ne va pas. Donc, la première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone et que j'appelle des hommes politiques, des femmes politiques, de gauche, bien, sympa, humaniste, tout ce qu'on veut.
Mais il y a quand même des gens de droite qui sont sympas, bien humanistes.
Bien sûr, mais moi, aucun problème. Et d'ailleurs, sur les Ouïghours, il y en a plein, des gens de droite qui ont été beaucoup plus aidants que beaucoup de gens de gauche. Mais j'appelle ceux que je connais, quoi. Et la réaction, c'est la même partout. Mais qui va s'intéresser aux Ouïghours? Et donc, notre seule solution, ça a été de faire appel aux jeunes sur les réseaux sociaux. Et regarde, il y a eu des campagnes où parfois il y avait des millions de jeunes qui participaient. Et le résultat de ça, c'est que la Commission européenne vient d'annoncer et de présenter un instrument pour bannir les produits de l'esclavage des Ouïghours de nos marchés.
Donc ça, c'est entériné.
C'est entériné, on doit encore le négocier et le voter au Parlement, mais le principe est entériné.
Ok.
On va faire le devoir de vigilance des entreprises, c'est-à-dire que désormais les multinationales seront responsables de l'ensemble de leur chaîne de production, et donc y compris des crimes commis par leurs fournisseurs chinois. Et donc on a obtenu des sanctions.
Ce que tu appelles des crimes, c'est faire travailler
des esclaves.
Des esclaves. Des enfants.
Des enfants ou des esclaves ou. Enfin, le travail forcé, quoi.
Non, mais je veux dire, on a tous un iPhone.
Ouais, je veux dire un truc très simple, donc, qui est terrible dans la déportation des Ouïghours, c'est que. Vu la structure de la globalisation, ce crime qui nous paraît extrêmement lointain a en fait pénétré dans nos armoires, notre téléphone,
nos pieds,
en se battant pour les Ouïghours.
Et ça, c'est changeable.
Mais oui, c'est changeable. C'est changeable. Il faut imposer des normes. Mais on peut le faire. Mais la seule.
Ça veut dire que les autorités étatiques doivent interdire à des entreprises qui font un gras de ouf.
On sait que Nike, les chaussures Nike sont, pour certaines, fabriquées par des esclaves. On connaît le nom des fournisseurs qui exploitent ces esclaves. Il faut que les douaniers saisissent les chaussures quand elles arrivent au port du Havre.
Mais comment Nike peut faire ça et d'un autre côté dire tel sportif qui a eu un propos déplacé...
Oui, mais ils font même des clips contre l'esclavage. C'est génial. Contre la ségrégation... contre l'esclavage, Black Lives Matter. Waouh! Bien sûr, mais c'est des génies de la com.
Et qui te suit au Parlement européen?
De plus en plus de monde, grâce au fait que je suis suivi par beaucoup de monde sur les réseaux sociaux.
Okay.
Et donc, en fait, c'est pour ça que je te dis que ça a un impact. Les campagnes que tu fais sur les réseaux sociaux, elles ont un impact direct sur la nature des débats politiques et les positions des uns et des autres.
Mais quel plaisir d'entendre que les réseaux sociaux peuvent avoir une existence si positive.
Je vais te raconter une histoire. On lance, on a la liste des multinationales bénéficient de l'esclavage des Ouïghours. On décide de lancer une campagne contre chacune de ces marques. On a à un moment une campagne sur Lacoste, parce qu'il se trouve que Lacoste avait des fournisseurs chinois qui étaient liés au système concentrationnaire chinois. Le patron de Lacoste répond sur mon mur d'Instagram à 11h du soir un vendredi à des lycéens qui sont en train de l'interpeller en disant « Non, tout ça est faux. » Et il revient 2 heures après sur ce mur en disant « Bon, c'est pas si clair, j'ai diligenté une enquête et on va recevoir Raphaël et on va discuter. »
Est-ce qu'il savait pas?
Non, je pense qu'en plus, sincèrement, il savait pas.
D'accord.
Et du coup, il s'engage à changer sa chaîne de production. Pourquoi? Parce que des jeunes se sont emparés de leur smartphone et ont dit « Nous, ça nous intéresse et ça nous interpelle. » Moi, ce que j'ai compris en le faisant, c'est qu'en fait, ces grandes marques, ces multinationales, leur business model, il est fondé sur deux piliers. Premier pilier, c'est on va chercher le coût de production le plus bas pour faire les marges les plus grandes. Et l'autre pilier, c'est l'image de marque. Parce qu'eux-mêmes, en fait, ils fabriquent rien. Tu vois, Zara, ils fabriquent rien eux-mêmes. Ils ont des fournisseurs qui fabriquent pour pas cher.
Ouais, Zara, ils copient en plus.
Et eux, ils ont une image de marque. C'est cool, tu vois, ils veulent créer une image cool. Nike, tu parlais des clips de Nike. Nike, ils veulent produire pour le moins cher possible et avoir la meilleure image possible. Le problème, c'est que ces deux piliers sont contradictoires. C'est-à-dire que ta recherche du plus bas coût de production entre en contradiction avec tous les clips que tu vas faire pour expliquer à quel point tu es une marque cool et humaniste. Et donc, nous, tout le travail que j'ai essayé de faire, c'est d'éclairer la contradiction entre ces deux piliers. Et dire, attendez, mais vous ne pouvez pas faire ces clips et par ailleurs faire travailler des esclaves.
Et qu'est-ce qu'ils disent Nike, par exemple?
Alors, Nike, c'est un mauvais exemple parce qu'ils nous ont dit, en gros, qu'ils en avaient rien à foutre de nos campagnes.
Ouais, ça.
Et c'est bien pour ça qu'à la fin, ils font une loi. Mais Adidas, Lacoste, H&M et d'autres ont pris en compte le truc. Parce que, en plus, leur public cible, c'est les jeunes, ceux qui font la mode. C'est les jeunes. Et donc, tout d'un coup, quand tu as des centaines de milliers de jeunes qui leur disent « bande de porcs, qu'est-ce que vous faites ?», ça peut les faire flipper. Le premier rendez-vous qu'on a eu, c'était avec Adidas, qu'on avait commencé par ordre alphabétique. Et donc, on lance la campagne, on ne savait pas que ça allait prendre comme ça. Et donc, il y a des centaines de milliers de gens qui interpellent. Quand j'ai parlé avec les dirigeants d'Adidas, j'ai compris, en fait, le pouvoir de ces réseaux. On a l'impression qu'ils étaient vraiment en panique, quoi. Il y en a plein qui me disent, de ces jeunes, « merci, parce qu'en fait, on a compris qu'on avait du pouvoir. » Et ça, c'est un truc qui est fondamental. C'est-à-dire que je pense que notre démocratie est en train de crever parce que les gens pensent qu'ils n'ont pas de pouvoir.
Raphaël Glucksmann, merci beaucoup. Nous allons faire deux numéros de cet entretien.
Avec grand plaisir.
Ça marche. Merci beaucoup.
Le podcast n'est pas terminé. La suite, en cliquant sur l'épisode numéro 2.
Et je chante même. De sa belle chasse copain. Des copains. De sa belle chasse copain.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.